20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec Kazuki Yamada et Didier de Cotigny, respectivement directeur musical et délégué artistique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, que nous allons passer un moment ce soir pour clore cette journée spéciale consacrée à cet orchestre dont nous pourrons apprécier les si belles couleurs samedi soir sur notre antenne. Et puis après Monte-Carlo, nous nous offrirons une escapade à la Scala de Milan avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Mais pour commencer, quelques brèves, quelques autres nouvelles du monde musical. Le prix de la Fondation Signature de Natalia Smalto, destiné à soutenir les jeunes talents, a été attribué hier soir au pianiste américain Christopher Vazan, pianiste et chef de chant qui a rejoint l'Académie de l'Opéra de Paris il y a un an, après avoir bénéficié entre autres de masterclass de direction d'orchestre aux côtés de Christian Thielmann à Bayreuth. Après le Metropolitan Opera de New York, c'est à la Canadian Opera Company d'annuler toute sa saison 2020-2021. C'est sans aucun doute l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire de notre institution. Mais ensemble, nous allons faire avancer l'opéra vers un avenir passionnant, a déclaré Alexander Neff, son directeur, qui continuait à assurer son mandat à distance depuis la France, où il vient de prendre les rênes de l'Opéra National de Paris. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alors que certaines grandes institutions peinent à reprendre leurs activités, des saisons de concerts plus modestes, mais tout aussi essentielles à la vie musicale, parviennent à se maintenir. C'est le cas notamment des concerts de poche, dont la saison automne-hiver vient de reprendre. Les concerts de poche qui investissent des territoires, souvent ruraux, où la musique était absente, y invitant les plus grands artistes du classique à s'y produire. C'est ainsi que ce dimanche, Marc Moyon donnera un récital avec la pianiste Anne Lebozec au château de Blandy-les-Tours, c'est en Seine-et-Marne, autour d'un programme qui associera leader allemand et mélodie française.
La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux. Et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Mais hélas, l'air t'emporte et la terre m'enchaîne, sort cruel. Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi des fleurs sans nombre, vous fuyez. Et moi, je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi. Prends comme moi racine ou donne-moi des ailes, comme à toi.
Le papillon et la fleur, délicieuse romance de forêt par Marc Moyon et Anne Lebozec. Ils seront en récital tous les deux ce dimanche à 15h30 à Blandy-les-Tours dans le cadre de la saison des concerts de poche, une saison à laquelle s'associent cette année encore des artistes d'exception.
Laure Maison sur Radio Classique.
Kazuki Yamada vient d'être reconduit à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont il est directeur artistique et musical depuis 4 ans, un poste qui l'occupera jusqu'en 2024 donc. Une nouvelle réjouissante dans la mesure où ce chef japonais a donné une belle impulsion à cet orchestre, comme nous avons pu l'apprécier il y a une dizaine de jours sur notre antenne à travers la captation de son concert d'ouverture de la saison. Joint par téléphone, Kazuki Yamada nous raconte ce soir ses liens avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont il a su gagner peu à peu la confiance.
Now, this season is the fifth year for me as musical and artistic director.
Il s'agit de la cinquième saison pour moi en tant que directeur artistique et musical. Je prends encore beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Mais il est vrai qu'entre les musiciens et le chef d'orchestre, ça n'a pas toujours été aisé. Bien sûr, nous avons fait plein de très jolies choses, de beaux concerts. Mais parfois, les musiciens et moi avons des conversations difficiles au sujet de l'organisation. Mais cela nous a finalement mené à construire un véritable lien de confiance, à établir un trust. Et maintenant, tout se passe bien, tout est facile et nous permet de faire de la musique extraordinaire.
Everything is so great, everything is so easy for us, so we can make the extraordinary music, I'm sure.
What are your projects? Et quels sont vos projets avec l'orchestre? Qu'attendez-vous du futur, de votre futur avec l'orchestre?
I think we have many possibilities.
Je pense que nous avons de nombreuses possibilités. L'orchestre à ce jour est déjà très bon, mais je crois que nous pouvons continuer à nous améliorer. C'est mon rôle, en tant que directeur musical, de toujours réfléchir à de nouvelles façons de se développer et de devenir meilleur. Et je vois ainsi un grand futur entre nous.
But is there some repertoire? Y a-t-il un répertoire que vous souhaitez développer en particulier, certains cycles ou des compositeurs que vous aimeriez diriger?
Cycle maybe.
Sometimes to concentrate one composer.
Je crois qu'en effet, se focaliser sur certains compositeurs peut être quelque chose d'intéressant. Cette saison, par exemple, est une année Beethoven, et nous en sommes tous très heureux. Nous avons pu nous concentrer sur sa musique et explorer en profondeur son œuvre. La sonorité de l'orchestre a ainsi pu changer.
So, two new records with the orchestra. Alors, deux nouveaux albums, des albums digitaux avec l'orchestre viennent de sortir, dédiés à Mendelssohn et à Fauré. Pourquoi avez-vous choisi, Kazuki Yamada, de graver ces deux symphonies de Mendelssohn et ce Requiem de Fauré?
Tout d'abord, simplement, car j'affectionne particulièrement ce répertoire. Concernant Fauré notamment, mon chœur de Tokyo est venu à Monte-Carlo afin de jouer avec l'orchestre, et cela a donné un fantastique concert. J'avais très envie de présenter mon chœur en Europe. Et à propos de Mendelssohn, la symphonie numéro 3, écossaise, est une très belle symphonie du répertoire que l'orchestre et moi adorons jouer. Malheureusement, la première est assez rarement jouée et je voulais donc présenter cette magnifique œuvre au plus grand nombre. Cette symphonie dégage des sentiments jeunes de Mendelssohn, mais aussi tout le génie de sa musique.
Et avez-vous encore de nombreux projets d'enregistrement avec l'orchestre? Est-ce important dans votre collaboration justement de faire des disques, Kazuki Yamada?
Oui, je crois que c'est important. Nous pouvons bien sûr faire de très beaux concerts, mais si nous faisons des sessions d'enregistrement, nous pouvons nous concentrer et prendre le temps nécessaire afin d'être plus précis.
For the one recording, and we can be much more precise. Maybe
c'est donc une chose importante pour l'orchestre et son développement.
Great things for developing orchestra, I think so.
Alors, comme vous l'avez dit à propos du Requiem de Forêt, vous avez fait appel à votre chœur philharmonique de Tokyo. Même s'il est difficile d'imaginer à ce jour une nouvelle collaboration entre le Japon et Monte-Carlo, est-ce que lorsque la situation sera plus sûre, vous aimeriez créer de nouveaux projets entre les deux pays,
Japan et Monte-Carlo?
Oui, bien sûr. J'aimerais pouvoir faire revenir mon cœur ici. Pas seulement mon cœur, car je pense à de grands artistes avec qui j'aimerais recollaborer lorsque tout ira mieux. Je suis persuadé que la musique peut aider les gens à surmonter cette épreuve. C'est d'ailleurs pour cela que nous devons continuer à faire des concerts.
Un extrait du Requiem de Forêt par Kazuki Yamada avec son chœur philharmonique de Tokyo et son orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Un enregistrement qui vient de paraître en version digitale sous le label OPMC Classics. Alors nous retrouverons l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en concert, concert capté dimanche dernier et diffusé samedi soir sur notre antenne, mais sous la direction d'un autre chef, Václav Lux, un chef venu du monde baroque, qui, vous allez l'entendre samedi soir, a su mettre en valeur toutes les subtilités, toute la fraîcheur et la précision de cet orchestre très en forme en cette rentrée. Un orchestre qui, il faut le souligner, a repris ses activités de concert dès le mois de juillet et de ce fait a pu retrouver ses marques et sa cohésion. Didier de Cotigny, le délégué artistique de l'orchestre, nous en dit plus sur ce concert et sur l'apport d'un chef comme Václav Lux.
Écoutez, c'est toujours très intéressant de se poser cette question
vis-à-vis de personnes qui viennent du monde du baroque. Et Václav Fluck en est un brillant exemple, parce qu'il a créé son propre orchestre à Prague, qui est absolument magnifique, qui vient jouer de temps en temps d'ailleurs en France, à Versailles notamment. C'est un de ces musiciens qui ont une science absolument incroyable, qui d'une part dirigent très bien parce qu'ils ont fait des études pour diriger vraiment des orchestres tout à fait habituels, mais qui a mis tout son travail dans la recherche du répertoire, notamment du répertoire du 18e tchèque, enfin disons bohème, puisqu'à l'époque ce pays s'appelait la Bohème, et donc tous les compositeurs, dont Mickiewicz, Banda, enfin c'était une ville qui avait une richesse créative en musique qui était absolument extraordinaire, et il fait revenir ce répertoire. L'idée m'est venue, comme Václav Fluck, je voulais l'inviter, de faire un thème de Mozart à Prague. Donc nous avons concocté un programme qui se compose d'œuvres que Mozart a écrites pour Prague ou à Prague. Pour cela, comme Mozart a connu ses plus grands succès de son vivant avec ses opéras, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, qui a d'ailleurs été créé à Prague, et la Clémence de Titus, bien sûr, qui a été aussi créée à Prague pour le couronnement de l'empereur Léopold d'Autriche. L'idée m'est venue, avec Václav Fluck, de faire un programme Mozart à Prague. Et nous avons évidemment voulu ajouter une pièce du compositeur qui était un des compositeurs les plus en vue à Prague à l'époque de Mozart, qui était Mickiewicz. Et Mozart avait une grande admiration pour Mickiewicz et ces deux compositeurs qui sont vraiment complètement contemporains et qui ont une certaine, disons, connivence artistique et créatrice. Mickiewicz a été un peu, disons, oblitéré par le génie de Mozart, qui a oblitéré à peu près toute la fin du 18e par sa personnalité et son génie créateur. Mais si vous regardez, vous avez des œuvres de Mickiewicz qui sont absolument divines, dont maintenant Václav Fluck se charge de faire l'édition pour les faire connaître au plus grand public. Et donc, on a donc concocté ce programme pour donner un exemple de ce qu'on pouvait entendre à Prague en 1790, par exemple. Donc, un air de la Clémence de Titus. Donc, nous avons fait appel à une chanteuse. Et qui de mieux que Fatma Saïd, qui est une jeune chanteuse absolument magnifique, qui a une science de la diction et une fraîcheur de la jeunesse et qui a une manière de communiquer assez exceptionnelle. On lui a fait confiance et donc on lui a attribué trois airs qui avaient été écrits par Mozart pour une chanteuse de Prague, Bella Mia Fiamma, et aussi un des airs de Vitellia pour la Clémence de Titus qui avait été écrit pour Prague et Vado Madove qui avait été donné à la première représentation à Prague.
Ooh.
Un petit aperçu de ce qui vous attend samedi sur notre antenne, la jeune soprano Fatma Saïd dans l'air Vado Madove de Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Václav Lux. Alors, quels seront les temps forts de cette nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ? On écoute Didier de Cotigny.
Si vous regardez la tradition de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, c'est un orchestre qui a été fondé au milieu du 19e siècle, 2 ans exactement après le Philharmonique de Vienne. C'est assez extraordinaire. Donc c'est quand même un des orchestres les plus anciens du paysage musical européen. Et en plus, qui a été fondé sur les mêmes bases que l'Orchestre Philharmonique de Vienne, parce que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo assure non seulement une saison symphonique, mais il assure aussi la saison d'opéra, et ils assurent aussi la saison de ballet. Et ce qui est une école absolument extraordinaire, parce que ça donne aux musiciens, et c'est ce que vous avez aussi au Philharmonie de Vienne, vous l'avez aussi ici, c'est que le fait de faire ces trois choses aide énormément dans la manière de jouer la musique, et aussi la flexibilité d'un orchestre, et la manière de s'adapter. Moi, je tenais à valoriser cela. Si vous regardez aussi l'histoire de l'orchestre qui a été dirigé par les plus grands chefs, en commençant par Toscanini, Arthur Nikisch, Victor de Sabata, Richard Strauss est venu diriger l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Igor Stravinsky de même, Bruno Walter, Otto Klemperer, Sir Thomas Beecham. Et donc l'idée c'était d'essayer de remettre un spot sur cet orchestre qui était un peu la belle au bois dormant dans le monde des orchestres en Europe en ce moment, et qui a trouvé un chef en la personne de Kazuki Yamada absolument extraordinaire, parce que c'est un chef qui peut briller dans toutes les sortes de répertoires. Et aujourd'hui, c'est quand même assez rare de trouver des jeunes chefs qui peuvent également bon dans Beethoven ou dans Mozart, mais qui peuvent vous faire aussi du Schoenberg, du Berg, de la musique contemporaine, avec une science et une assise technique formidable. Il a aussi une très grande passion pour le répertoire français. Et comme le répertoire français a toujours été un des grands piliers de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, je fais remarquer que l'Enfant et les Sortilèges est une commande de la Principauté de Monaco à Maurice Ravel, et la première exécution a eu lieu à l'Opéra de Monte-Carlo. L'orchestre a toujours aussi été excellé dans le grand répertoire Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms. Donc ça, c'est aussi un autre volet qui pour nous est important. Voilà, donc ce que j'ai essayé de faire avec cette saison qui commence, c'est d'avoir à peu près 3 lignes, si vous voulez, directrices, qui donc se rapportent à ces piliers de la, disons, de la formation musicale de l'orchestre au fil des années. Le troisième volet, c'est le répertoire russe, qui a toujours été extrêmement fort à Monte-Carlo, avec les ballets russes notamment, qui ont fini leur cycle d'activité à Monte-Carlo après le départ de Paris. Et donc, il y a toujours eu une très grande affection pour le répertoire russe de la part de cet orchestre. Voilà, nous avons aussi mis un accent particulier sur le répertoire russe dans cette saison.
D'où l'ADN de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo figure au programme de cette saison dont nous pourrons profiter régulièrement.
Mais nous avons aussi rétabli dans cette saison une vieille tradition qui était le cas ici, c'est-à-dire de faire des concerts de piano, récital de piano. Dans les années 50-60, tous les plus grands pianistes sont venus donner des récitals à Monte-Carlo, et je trouvais que c'était aussi une bonne idée d'essayer de reprendre cette tradition, parce que nous avons une salle magnifique qui est aussi bien l'Opéra Garnier que l'Auditorium Régnier III, avec des acoustiques parfaites pour les récitals de piano ou la musique de chambre. Et cette année, c'est un festival de pianistes aussi chez nous, dans notre saison. On a commencé avec Martin Almshan, qui nous a fait le triple de Beethoven et qui reviendra au mois de novembre avec son compère, Frank-Peter Zimmermann, ce magnifique violoniste allemand, nous donner l'intégrale des sonates pour piano et violon de Beethoven. Ensuite, nous avons eu Christian Zimmermann la semaine dernière, qui nous a fait les magnifiques 5 concertos de Beethoven. Mais la semaine prochaine, nous auront Simon Tchepsky, qui sera suivi la semaine d'après par Martha Argerich, un récital de Boris Berezovsky. Donc vous voyez, on ne manque de rien, et Alexandre Kantorov nous fera son récital au mois de janvier. Donc je suis absolument ravi de pouvoir reproposer, disons, des concerts de très haute volée, et en espérant que le public sera au rendez-vous, bien sûr.
Une belle saison donc que l'on suivra sur l'antenne de Radio Classique. Merci beaucoup Didier de Cotigny.
Ben, je vous remercie beaucoup. We'll be right back.
Quelques notes de la symphonie écossaise de Mendelssohn par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de son chef Kazuki Yamada. Un enregistrement qui vient de paraître en digital sous le label OPMC Classics. Et pour écouter l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en concert sous la direction de Václav Lux, rendez-vous samedi à 21h sur Radio Classique.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Un voyage à Milan, à la Scala de Milan, cette semaine avec vous.
En Milan, au cœur de cette Lombardie tellement touchée par le Covid-19, dont les forces musicales, celles de la Scala, se sont réunies sous la baguette de Riccardo Chailly, son directeur musical, pour donner, peut-être l'avez-vous vu à la télévision, le Requiem de Verdi le 4 septembre, puis les 7 et 9 septembre à Bergame, ville ô combien touchée, et à Brescia, c'était en hommage donc aux victimes du Covid. Et c'est également Verdi et sa très célèbre Aïda, qui a été créée au Caire, puis à Milan, 1871-1872 à Milan, soit 2 ans avant le Requiem. Donc c'est Verdi et Aïda qui accompagnent ce début de saison à la Scala, après une Traviata, encore Verdi. Donc c'est vraiment le héros de ce début de saison. Alors pas de mise en scène pour cette Aïda, évidemment en raison de la crise sanitaire, mais plusieurs représentations, cela vient de commencer jusqu'au 19 octobre. Et c'est encore Riccardo Chailly, qui dirige le chœur et l'orchestre de la célèbre scène milanaise, proposant même, explique la presse spécialisée, un état inédit, il aime beaucoup aller chercher dans les archives musicales, Riccardo Chailly, un état inédit de quelques scènes de l'acte 3, à partir de recherches donc, qui ont été effectuées dans la maison de Verdi, cette propriété de Sant'Agata. Alors, c'est d'une très grande difficulté vocale, on le sait, Aïda, et elle sera défendue, l'héroïne Aïda, par Saoya Hernandez. Francesco Melli incarnera Radamès et puis c'est Anita Rachvelishvili qui sera Amneris, ce rôle on l'a entendu à Paris notamment, dans lequel le public l'apprécie et l'applaudit tout particulièrement.
Mais je crois que vous vouliez aussi, Emmanuel, attirer notre attention sur un autre artiste dont je vous laisse prononcer le nom.
Oui, à mes risques et périls. Oui, c'est lui qui incarnera Amonasro, le père d'Aïda, qui à l'acte 3 justement a une scène terrible de confrontation et d'affrontement avec sa fille. Donc Amonasro est incarné par un baryton originaire de Mongolie dont le nom en effet complexe à retenir pour nous français ne doit surtout pas nous dissuader de suivre attentivement sa carrière. Il s'agit d'Amar Tufshin Enkbat qui est donc originaire de Mongolie et qui est de ces chanteurs remarquables qui est doté de toutes les qualités qu'on attend chez Verdi, chez les barytons verdiens, un timbre à la fois riche, profond et clair, une vocalisation et une ligne de chant extrêmement élégante et naturelle, de la puissance mais aussi des nuances, notamment pour ces notes finales qui doivent jouer le décrescendo, alternant, donc avec beaucoup de naturel et beaucoup de noblesse, je le répète. Alors la suite de la programmation annonce des récitals, dont Sabine de Vielle, puis une bohème dans une mise en scène qui nécessite sans de peu de répétitions tant elle est familière de la Scala, c'est celle de Franco Zeffirelli. Après la suite, et notamment cette rituelle ouverture le jour de la Saint-Ambroise, le 7 décembre, qui est vraiment l'ouverture en fanfare de la Scala de Milan. Pour le moment, on ne peut pas dire grand-chose. Cela devrait être Lucia de la Mermoor avec Lisette Oropesa et Juan Diego Flores, mais à suivre, on en reparlera plus tard.
Le prélude d'Aïda de Giuseppe Verdi par Riccardo Chailly et l'orchestre de la Scala pour illustrer cette chronique milanaise. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci,
pour ce petit voyage à la Scala. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Alexandre Kantorov, qui est d'ailleurs artiste en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo que nous évoquions ce soir. Très belle soirée.